Ce que je vais présenter, c'est l'apport des campus numériques dans l'étude médicale à la faculté de médecine de Nantes. Donc, une mise en application de comment on l'utilise à Nantes, avec une amorce de réflexion sur quelles peuvent être les perspectives. Donc, actuellement, 46 campus numériques sont présents sur le portail de l'Université de Nantes, francophone, l'Université médicale virtuelle francophone, composante de l'UNF3S, sur les 52 disciplines. Donc, tout le monde le sait, ce sont des ressources documentaires qui concernent le premier cycle et essentiellement le deuxième cycle des études médicales. Donc, on utilise une chaîne éditoriale dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la même que celle, bien sûr, de la maïeutique, qui comporte pour les cours prérequis, objectifs, cours médiatisés, versions téléchargeables, les tests d'auto-évaluation, on en a parlé, et l'évaluation aussi téléchargeable. Alors, malheureusement, je pense que vous ne verrez pas, parce que c'est pas assez sombre et je suis désolé. Mais lorsqu'on se connecte, n'importe qui peut se connecter de cette manière-là sur le site de l'Université de Nantes. Donc il n'y a pas de code d'accès pour les étudiants en médecine dans cette partie-là, dans l'accès aux ressources, dans leur plateforme d'enseignement, leur environnement numérique de travail. En effet, ils ont des particularités suivant leur année d'études, ne serait-ce dans le cadre de leur thèse d'auto-évaluation ou leur stage, ainsi de suite. Mais par contre, les ressources sont en accès libre et sont classées année par année. Donc voilà le site de l'Université de Nantes. Donc là, on est en médecine. Il y a pharmacie, médecine, odontologie, orthophonie, orthopsie. Si on prend l'année DCEM3, on clique dessus, l'étudiant clique dessus. Après, il clique sur « Enseignement obligatoire » que j'ai sélectionné, « Certificat optionnel ». Et là, toutes les disciplines sont exactement enrichies de la même manière, c'est-à-dire dans, je dirais, pratiquement 100% des disciplines en D2, D3, D4. Le référentiel en ligne sur le site de l'Université de la Faculté de médecine de Nantes et le campus numérique de l'UMVF. Donc j'ai pris par exemple l'ophtalmologie. Donc là il y a le classement item par item, plus par exemple pour l'ophtalmologie ils ont rajouté, ce qui semble évidemment une bonne chose, hein, ce qui dépasse les items de l'ECN, anatomie physiologie de l'œil, principaux examens complémentaires en ophtalmologie, qui font partie du campus numérique, vous voyez, campus numérique d'ophtalmologie, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et en prenant par exemple l'item 58, et vous voyez qu'à chaque fois, sur ce qui est en ligne pour l'étudiant en médecine, donc leur document de base de travail avant d'aller au cours, qui sont habituellement faits sous forme d'enseignement dirigé, situation de cas clinique, évaluation de cas clinique, réflexion sur les cas cliniques, à chaque fois vous voyez campus, 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 campus. Donc ils cliquent là-dessus, tac. Et là, ben il a prérequis, cours, évaluation, ainsi de suite. Donc là, bon, je ne vais pas trop insister, et puis ça me permettra de discuter un peu plus. Donc le cours, bon, il y a le cours, il y a les QCM, très bien, auto-évaluation. L'iconographie qui est classée avec toutes les images qui sont évidemment riches en ophtalmo dans le texte. Et il clique sur l'image, il y a un agrandissement, il ferme l'image, et puis retourner au cours. Bon, enfin, ce n'est pas très spécifique à ce campus, si ce n'est qu'il est très riche en iconographie. Il était fait d'ailleurs par nos collègues de Limoges, porté par eux. Alors, il y a l'iconographie, il y a les recommandations sur ce cours qui était la cataracte. Il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé, donc il y a un lien avec la Haute Autorité de Santé. Et puis l'étudiant, si il souhaite aller un peu plus loin, connaisse pour son exercice professionnel ultérieur quelles sont les recommandations précises, mais il peut avoir accès directement à ce document. Alors, il y a quelques cours dans lesquels le responsable de la discipline a décidé que le campus, c'était bien, donc il l'a mis toujours. Mais s'il estime qu'il y a un cours un peu complémentaire et qu'il souhaite mettre en ligne, ben il le met. Mais ceci est exceptionnel. Je dirais que ça fait à peu près maximum 5% des cours en ligne pour les étudiants de la faculté de médecine de Nantes. Alors, par exemple, vous voyez, ça c'est en dermatologie, j'ai pris cet exemple, hein, mais il y a d'autres disciplines qui ont fait ça. Il y a par exemple l'item 223, qui est sur les angiomes. Donc là, également, vous voyez qu'à chaque fois, campus dermato, et ainsi de suite, systématiquement. Et là, pour l'item 223, donc il y a l'angiome traité dans le cadre du campus numérique de dermatologie, et puis il y a le professeur Jean-François Stalder qui a souhaité mettre un cours ou un diaporama ou une vidéo en complément. Donc l'étudiant a les deux éléments. Donc ça, c'est le cours traité dans le campus. Très bien, donc toujours la même rubrique. Là, c'était l'ancienne version. Donc maintenant, disons, le graphisme est un peu différent en utilisant ChainEdit. Et lui, donc, il a souhaité mettre son cours. Donc il y a son cours qui est téléchargeable également. Et mon Geome, très bien. Bon, j'ai pas remontré tout le cours. Voilà. Donc là, c'est Nantes. Donc les étudiants, après, voient ce que ça apporte en plus par rapport au campus. Donc, comment ceci est utilisé au niveau de la faculté de médecine de Nantes? Donc, les étudiants utilisent, donc majoritairement, mais plus que majoritairement, je dirais, quasiment tous les cours, D2, pas en D1. D1, c'est un peu plus P2 et D1. Pour l'instant, il y a une partie simplement des campus, d'abord, qui existent. Mais, par exemple, la bactério, la parasito, c'est le document de référence. Il est même utilisé en cours, en direct. Sinon, en D2, D3, D4, ça représente plus de 95% des documents de base qui sont recommandés pour l'étudiant. Et lorsqu'il clique « cours avec le professeur Stalder tel jour », hop, il a le référentiel du campus de l'UMVF en dermatologie. Deuxième usage de l'UMVF par les étudiants en médecine de Nantes sont les entraînements au ECN avec les dossiers cliniques, LCA également. Mais c'est surtout les deux premiers éléments. Alors, Patrice de Texte nous parlait tout à l'heure mais l'amphi, quel est le rôle de l'enseignement en amphi? Et la question qu'il faut se poser, c'est finalement, les campus numériques, quels sont est-ce que ça correspond à un besoin pour les étudiants, pour les enseignants et pour les facultés? Donc, quelques éléments de réflexion. Alors, finalement, pour les étudiants, quels sont ces besoins prioritaires? On sait très bien, on a été étudiants, nous aussi, c'est la réussite aux examens, et surtout à l'ECN. L'objectif, c'est d'être reçu à l'ECN. Et un peu secondairement, c'est l'acquisition de compétences, c'est-à-dire savoir quoi faire dans la bonne situation, et dans le cas particulier de la patiente ou du patient qui va avoir à prendre en charge. Le contenu, eux, c'est extrêmement clair. Ils passent un examen national, donc ils veulent travailler sur le référentiel national. Et si possible, avoir des éléments de réflexion rapide, comme point essentiel, point clé, test d'auto-évaluation, cas clinique. Ces éléments qui font partie des campus, tels que c'était défini dans l'UMVF, cette modalité, cette ergonomie des campus a été réalisée avec eux. Donc c'est logique que ça corresponde à leurs besoins. Quelle forme? Là, c'est extrêmement clair aussi. Ils souhaitent travailler sur la version papier. C'est-à-dire, aujourd'hui encore, ils souhaitent avoir un document pour griffonner, pour réapprendre, pour réviser. Par contre, pour eux, c'est important d'avoir une espèce de bibliothèque virtuelle, de telle sorte que si sur un cours, par exemple, la cataracte tout à l'heure, c'est pas sur un poly qu'ils vont voir rapidement toute l'iconographie qui correspond à ça. Si ils souhaitent faire des tests d'auto-évaluation, également, c'est pas sur un polycopier qu'ils vont faire des tests d'auto-évaluation. S'ils souhaitent faire un retour à l'anatomie de l'œil, j'en sais rien, c'est pas sur un polycopier qu'ils vont pouvoir faire ce retour simplement. Donc, d'avoir un document hypermédia qui correspond à une réelle bibliothèque virtuelle, même si pour la préparation de leur examen, c'est peut-être pas le document de base, pour leur culture et puis pour leur compréhension du cours, finalement, ceci est extrêmement intéressant. Besoin des enseignants, je dirais que c'est un peu partagé, mais évidemment, nous, ce qu'on souhaite, c'est que notre étudiant, lorsqu'il passe, par exemple, en gynécologie obstétrique, moi, je souhaite qu'à la fin de mon stage, c'est pas qu'il sache répondre aux questions, c'est qu'il ait compris comment prendre en charge une jeune femme qui vient pour une suspicion de grossesse extra-utérine. C'est pas qu'il me cite les signes cliniques de la grossesse extra-utérine. Donc, nous, c'est plutôt une acquisition de compétences. Mais bien sûr, si à l'internat, il y a un cas clinique qui tombe sur la gynécologie obstétrique et les étudiants de Nantes sont nuls et ont une mauvaise note, le doyen va me convoquer en me disant « Attends, il y a un problème, ton cours n'a pas été bien fait ». Donc, c'est important aussi le succès à l'ECN, bien sûr. Quel contenu? Je crois que chacun, on a fait des ouvrages, on a participé à des ouvrages, on a réalisé des polycopiés. Il est évident que lorsque c'est en ligne, le fait que ça soit mis à jour, la mise à jour est beaucoup plus simple. Donc d'avoir un document validé par nos collègues, mis à jour sur le plan national, c'est intéressant. Quelle modalité pédagogique? Et là, notre président l'a dit tout à l'heure, Patrice Detex, dans les cours, maintenant, enfin, du moins, je pense, dans beaucoup de facultés, on ne fait plus de cours magistral. Ce qu'on appelle cours en présentiel, l'étudiant doit, entre guillemets, obligatoirement, mais normalement c'est obligatoirement, avoir travaillé sur le cours qui va être traité. Et en fait, c'est pas un cours, c'est un enseignement, c'est-à-dire qu'on fait uniquement des cas cliniques. En général, on commence par des QCM pour voir un peu s'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris rapidement. Et après, on fait pendant 1 heure ou 2 heures des situations cliniques où on essaie d'aborder avec lui comment il prend en charge dans telle situation, telle patiente, parce que je m'occupe de gynécologie obstétrique. Donc, c'est un document obligatoire pour lui. Il faut qu'il ait un document référentiel à jour, qui corresponde à ce que j'estimais comme à jour et nécessaire pour ce cours-là. Et après, on peut tranquillement parler vraiment de médecine. Et bien sûr, l'iconographie, pour nous, c'est très important aussi. Qu'on bénéficie d'une iconographie faite par la faculté, mais aussi par nos collègues sur le plan national. Les besoins des doyens, à l'évidence, je pense que c'est aussi l'acquisition de compétences. Il y a aussi une dimension francophone qui est importante du fait des contacts vis-à-vis des facultés francophones et des doyens des facultés francophones. Je pense que pour eux, c'est important aussi cette diffusion du savoir. Et bien sûr, aussi, on voit bien quand il y a la publication des résultats des facultés sur le plan national à l'ECN, ils regardent comment se placent leurs étudiants par rapport aux autres facultés. Donc, cette réussite est aussi importante. Les contenus, le fait que ce soit un référentiel national établi par les collèges est essentiel, qu'il y ait un document de base. Ça n'élimine pas la spécificité, parce que les uns et les autres, bien sûr, nous sommes enseignants au niveau du deuxième cycle, mais nous sommes aussi enseignants au niveau du troisième cycle, nous sommes aussi des praticiens, et certains avoir des domaines, nous exerçons des domaines d'hyperspécialité. Il n'est pas interdit qu'on donne cette culture à nos étudiants en médecine. Mais en complément, qu'on ait aussi une utilisation des documents pédagogiques de manière différente par rapport aux autres enseignants. Donc ce n'est pas évidemment interdit. Donc l'objectif, c'est d'avoir un document de base, et après qu'on apporte notre complément. Qui est test d'auto-évaluation, je pense que c'est évidemment important pour les doyens aussi, des cas cliniques, pour qu'ils soient de mieux en mieux, de meilleur niveau à l'ECN. L'utilisation nationale des campus numériques, donc on a fait brièvement une évaluation il y a quelques mois, grâce à un outil statistique PHP MyVisit, simplement pour vous donner quelques éléments, entre voyez, janvier et mars 2010, il y a à peu près par mois 50 000 connexions, ce qui est quand même correct, avec un certain nombre de campus, avec des variations mois après mois, aux alentours de 10 000 connexions par campus. Cet outil est un outil très basique. On est en train de développer des outils beaucoup plus intelligents, c'est-à-dire, là, c'était le nombre de connexions à un campus. Donc maintenant, on a mis en place un outil de telle sorte qu'il y aura un nombre de connexions par page du campus. De telle sorte qu'on pourra voir même le parcours de l'étudiant pour savoir s'il rentre simplement dans le campus ou ainsi de suite. Pour terminer, donc, à la faculté de médecine, les campus de l'UMVF sont nos documents de base. Et comme je vous l'ai dit, il y a des ajouts éventuels de ressources par des enseignants, mais qui sont plutôt dans le cadre des enseignements dirigés, plutôt que dans le document de base figurant sur le site. Et ceci a un intérêt évident pour l'étudiant, qui passe en concours national. Le rôle des enseignants, c'est la mise en application de ses connaissances à partir de situations cliniques, avec apprentissage du raisonnement clinique. Et la participation aux cours, entre guillemets cours, qui ne sont pas des cours, est à peu près correcte. Elle n'est pas énorme, mais disons, il y a une vingtaine d'années, lorsque j'étais enseignant à Paris-Ouest, pour ne pas le citer, il y avait à peu près 2-3 étudiants dans les cours, qui ont fait des cours magistraux. Là, il y a à peu près 30% de l'effectif qui est en cours. Donc c'est quand même, je pense que c'est correct. Donc là, on se dirige plus en tant qu'enseignant vers l'acquisition de compétences. Donc pour nous, c'est beaucoup plus intéressant. En revanche, je crois qu'on a encore un travail au niveau de l'UMVF. On en a parlé également tout à l'heure sur la nécessité de finaliser vraiment tous les campus de telle sorte que ça puisse être le plus transversal entre les campus, de telle sorte que l'étudiant, lorsqu'il travaille par exemple sur plutôt la néphrologie, parce que la cataracte au cours de la grossesse, c'est pas très intéressant, bien que il y a la cataracte congénitale, mais il puisse Et on sait que les étudiants aiment bien aller d'un endroit à l'autre facilement, zapper comme on dit. Mais ils puissent, ça ouvre un peu sa réflexion et ça donne l'opportunité de sortir du polycopier papier. Et donc c'est partie des avantages. Donc je crois qu'il y a ce travail qu'on doit vraiment réaliser.
Je vais vous parler de notre référentiel de neurochirurgie en deuxième cycle. Alors avant de débuter, je vais vous parler un peu de l'idée de départ, ou plutôt enfin de ce qu'on souhaitait faire. La première chose, c'était de mettre en ligne disponible pour tous un référentiel d'enseignement national. Ça, c'est d'une banalité. C'est comme ça dans toutes les spécialités. Ça fait longtemps que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est absolument nécessaire. Puis après, on a fait un certain nombre de choix. Premier choix, on a souhaité mettre en place une progressivité dans l'apprentissage en médecine, en se disant que la neurochirurgie était quand même quelque chose d'extrêmement spécialisé, que pour un jeune étudiant en troisième ou en quatrième ou en cinquième année de médecine, c'était peut-être un peu compliqué, voire ésotérique, la neurochirurgie. Donc on a souhaité lui proposer un premier apprentissage simplifié de la neurochirurgie, qui pourrait un peu ressembler à ce qu'était le concours de l'externat pour nos aînés il y a quelques dizaines d'années. La deuxième chose, c'est qu'on souhaitait insérer cet enseignement, c'est-à-dire que cette dichotomie premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, formation médicale continue, etc., on souhaitait faire quelque chose qui soit un peu plus décloisonné, et donc l'insérer vraiment entre le troisième cycle, la formation médicale continue et le DPC. Et sachant que toutes ces formations sont gérées chez nous par le Collège de neurochirurgie. On souhaitait bien évidemment utiliser les techniques de l'informatique et de la communication et d'Internet, et donc pas mettre que du texte et du PDF, bien évidemment. Et puis, pour faire tout ça, on a demandé une bourse de l'UMVF qui nous a permis d'avancer. Alors, je vais vous présenter le site du campus de neurochirurgie, que voilà. Donc, on a donc un site du campus avec, effectivement, un onglet pour les étudiants en médecine, un onglet pour les étudiants en neurochirurgie, la formation continue, etc. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter donc l'onglet étudiant en médecine. Alors, en pratique, nous avons mis en place, on a essayé de créer cette espèce de camembert à 8 morceaux. Ce camembert à 8 morceaux, ça représente à peu près les 8 grands thèmes de neurochirurgie qui intéressent nos étudiants en médecine qui ne sont pas forcément destinés à devenir neurochirurgiens. Alors, je vous ai parlé au départ, alors malheureusement on ne voit pas le côté, mais c'est pas grave, je vous ai parlé au départ de cette progressivité de l'enseignement, et donc pour chaque camembert, alors là par exemple c'est abcès et méningite, on a mis en place un petit onglet de ce qu'on appelle la pathologie simplifiée, c'est-à-dire qu'on présente les grandes maladies en moins d'une page, pour que l'étudiant puisse un peu avoir un socle de connaissances au moment où il va rentrer plus avant dans l'apprentissage de ses connaissances. Ensuite, nous avons extrait toutes les questions ECN qui touchaient de près ou de loin la neurochirurgie, et nous les avons rédigées, donc les étudiants ont toutes les questions ECN rédigées. Et puis, nous avons mis en place une ressource. Alors la ressource, c'est quoi ? Bah, ça peut être un poli, ça peut être un enseignement. L'idée étant de dire qu'ils ont la pathologie simplifiée, ils ont les questions ECN, donc la ressource, c'est généralement quelque chose de beaucoup plus structuré, qui, dans certains cas, peut même être limite troisième cycle, mais qui soit vraiment une ressource sur Internet pour que l'étudiant aille chercher plus loin des points particuliers qu'il ne comprend pas. Et puis, il y a l'iconographie, qui est indexée dans les différentes rédactions sous-jacentes. Alors, nous avons le deuxième point que je voulais développer, c'est l'envie qu'on avait d'insérer cet enseignement de deuxième cycle et de le fondre un peu dans les autres enseignements et dans les autres éléments que nous avons ou que nous sommes en train de développer au sein du collège. Avec un premier grand projet que nous avons, c'est l'encyclopédie de neurochirurgie. Nous avons aujourd'hui comme ressource pour les étudiants un poli national. Nous avons un livre de neurochirurgie dont nous avons les droits, et donc les étudiants peuvent le consulter en ligne. Et nous souhaitons changer tout ça pour mettre en place une encyclopédie numérique de neurochirurgie. Et puis nous avons une application e-neurochirurgie dont François Nataf vous parlera cet après-midi. Alors l'encyclopédie de neurochirurgie, on en est aujourd'hui qu'au tout début, puisqu'on est au stade des appels d'offres et de la structuration de cette encyclopédie. Le but à terme est de réellement avoir une encyclopédie numérique, c'est-à-dire avec des liens partout, allant vers l'iconographie, vers des cas cliniques, vers de la vidéo, vers du texte, vers des enseignements. On a beaucoup d'enseignements qui ont été filmés ou de conférences qui sont filmées, etc. Et puis, je vais vous présenter très rapidement l'application e-neurochirurgie. C'est une application iPhone, téléchargeable sur tous les iPhones, et qui sont destinées aux étudiants. Alors, c'est une application française, mais qui existe aussi en langue anglaise. et qui a pour but de définir des objectifs pour nos étudiants. Alors, c'est les objectifs, donc c'est la neurochirurgie, donc en neurosciences, en sciences chirurgicales et en pathologie neurochirurgicale. Alors, par exemple, en neurosciences, vous avez la neuroanatomie, la neurophysiologie, la neuropathologie. En sciences chirurgicales, la neuroréanimation, les infections, etc. Et puis, en neurochirurgie, les grands thèmes de pathologie qui sont traités. Pour chaque thème, il y a des objectifs pédagogiques. Ces objectifs pédagogiques ont en fait été définis pour les étudiants en troisième cycle. C'est pour nos internes, avec une structuration de nos internes un peu à la mode nord-américaine, junior, intermédiaire, senior, et ça leur donne des objectifs. Alors, ce n'est pas le thème aujourd'hui, puisque, en fait, aujourd'hui, on s'intéresse au deuxième cycle, mais l'important, ce dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a, toujours dans cet iPhone, une référence, une possible référence à l'enseignement du deuxième cycle, c'est-à-dire que l'interne, l'étudiant en troisième cycle, peut se référer à un enseignement plus simple, si vraiment il perd pied, s'il sait plus, s'il sait pas. Et donc, encore une fois, tout est connecté. Pareil pour l'encyclopédie numérique. Là, c'est le livre de neurochirurgie dont je vous ai parlé. Et puis, les différents sites du collège. Alors, qu'est-ce qui reste à faire maintenant? C'est ma dernière diapositive. Eh ben, on a à étoffer notre base iconographique. Donc, ça, c'est en cours, puisqu'on est en train de la référencer. Et on voudrait étoffer la base de données cas cliniques. Et puis mettre en place une base de données TCS pour que les tests de concordance de script, pardon, pour que les étudiants puissent un peu plus s'entraîner. Je vous remercie.
Et pour nous anatomie, c'est un grand moment, ce passage au numérique. Et je tiens en introduction à préciser que c'est un mouvement du collège tout entier. Vous voyez les noms que vous connaissez certainement, et c'est bien l'idée qui est là aujourd'hui, c'est-à-dire de faire naître le campus d'anatomie, et ce, je dirais, en s'inspirant de l'expérience qui existe déjà à travers différents campus, et en l'adaptant spécifiquement à l'anatomie. Alors, cette expérience autour d'un campus d'anatomie a déjà été lancée il y a quelques années, en 2004, par l'UMVF, et c'est Jean-Claude Dumas qui l'avait lancée. Et c'était déjà l'idée de mettre en ligne du contenu numérique et de représenter le collège sur l'UMVF. Eh bien, on le sait bien, en informatique, il y a des projets qui se lancent, qui sont le début, l'idée est là, et parfois il faut renouveler un effort, repartir sur un nouvel élan, et c'est le cas aujourd'hui, en sachant que les efforts qui ont été faits sur ce projet-là, et le contenu qui est, et le contenu qui est préparé, qui devait y être, eh bien, sera bien sûr inclus dans le nouveau campus tel que je vais vous présenter. Donc c'est un petit peu facile et à la fois difficile de présenter quelque chose qui n'a pas encore été fait. Présenter un projet, on peut toujours prendre une dimension infinie et promettre la lune. Et donc il m'est paru important de vous montrer dans quel état d'esprit on se présente vis-à-vis du numérique en anatomie aujourd'hui. Ce qui est spécifique à l'anatomie, c'est son contenu. Et pour bien comprendre notre discipline, on se rend compte que la qualité des cours, le plus souvent, est axée sur l'illustration, la qualité des dessins, et cette illustration va du dessin à la craie, et pour nous c'est encore quelque chose de très important pour ces vertus pédagogiques, et c'est appelé jusqu'au modèle 3D, mais la finalité reste la même, la finalité est de faire comprendre dans l'espace des structures complexes. Ce que je vais vous présenter ici sur le campus numérique d'anatomie, c'est la problématique que nous avons tous à travers les campus, quels qu'ils soient, tout d'abord un contenu qui correspond à la discipline, et puis une validation, et c'est ça qui donne un petit peu la qualité de nos campus, c'est que les sociétés savantes, experts dans le domaine, valident le contenu, et ça pour Internet est un élément essentiel. Et l'élément clé qui vient ici, qui apparaît, qui surgit, on le voit bien à travers toutes les présentations qu'on a entendues, c'est que ces connaissances, ce contenu doit être organisé pour être accessible aux étudiants, mais pas seulement, il doit être aussi accessible entre campus, et donc imaginer des systèmes automatiques qui vont faire les liens entre les différents campus. Tout ça à travers le web, ça c'est clair. Donc privilégier le savoir, c'est évident de le dire, et je vais essayer de vous montrer à travers cette diapositive comment on envisage les choses. Donc le campus numérique d'anatomie, un contenu numérique, on vient d'en parler, eh bien on a le souhait, ce qui est peut-être très ambitieux, d'inscrire ce campus dans ce qu'on appelle le web sémantique. Je n'ai pas du tout le temps de le développer ici, mais je voudrais simplement vous l'illustrer à travers les perspectives qu'on peut envisager. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la même chose. On utilise Internet à travers des requêtes, c'est-à-dire qu'on cherche une information, une formation. Et la façon la plus classique, la plus connue, et ce qui a fait le moteur des moteurs de recherche, c'est l'utilisation de mots-clés. Et encore aujourd'hui, sur le campus et ailleurs, eh bien, ces mots-clés permettent un accès aux connaissances. Et d'expérience, vous savez aussi que c'est pas toujours évident de tomber exactement sur ce qu'on cherche. Eh bien, cette réalité, elle est prise en compte par le monde du web très clairement, en essayant de mettre en place justement des structures plus élaborées, que ce soit des moteurs, donc des métamoteurs plus complexes, mais aussi de structurer les données pour qu'ils soient plus facilement accessibles. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que l'étudiant ou l'utilisateur pourra bien sûr déposer des mots-clés, mais aussi déposer des concepts, pronation, supination, mouvement complexe au niveau du membre supérieur, un concept. Si vous tapez ça aujourd'hui sur Google, vous êtes un petit peu surpris du résultat. Et encore plus intéressant, c'est le raisonnement, c'est-à-dire qu'on peut même se poser une question de sémiologie et tomber sur l'information anatomique sous-jacente, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Eh bien, tout ça, ça passe par une démarche que certains d'entre vous doivent connaître, c'est la mise en place d'une base de connaissances formalisée, et tout est dans le terme de formaliser, là, c'est tout l'aspect du web sémantique. Simplement, si on veut imaginer un accès assez élaboré au niveau du concept et du raisonnement à un contenu, il va falloir mettre, pour chaque spécialité en place, une base de connaissances formalisée, car celle-ci sera accessible par les systèmes informatiques et permettra de répondre à des requêtes élaborées. Alors, voilà le schéma. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire pour ce campus d'anatomie? Eh bien, c'est de le faire vivre de l'intérieur, d'une façon, je dirais, sémantique, en construisant le site autour d'une ontologie d'anatomie. Ça, c'est un travail qui a été fait au laboratoire d'anatomie à Grenoble, c'est mon travail personnel, mais bien sûr avec d'autres personnes, où on a récupéré des choses qui existent déjà, pour ceux qui le savent. Donc FMA, qui est une ontologie d'anatomie excessivement élaborée, ancienne, donc on a récupéré déjà ces infos. On a rajouté les fonctions, puisqu'on a l'idée de poser des questions compliquées, et on a lié, et c'est là où ça devient intéressant, à du contenu numérique, et c'est un challenge, parce que dans le web sémantique, aujourd'hui, relier du texte, c'est facile, mais relier des images, et voire même des modèle 3D à des concepts, c'est beaucoup plus complexe. Donc nous, on envisage la langue française, bien évidemment, puisque c'est laquelle on travaille, l'anglais pour être international, et le latin, car ça reste la langue de référence en anatomie. Et bien sûr, tout ça connecté au portail de terminologie de santé, en sachant qu'on a déjà pris contact pour que les mots-clés et cette ontologie soient connectés. Donc tout ça à travers un système de gestion de contenu. Là, c'est peut-être un petit peu plus technique, à peine, simplement pour vous dire que le socle, c'est un contenu multimédia avec une base de données SQL, et cette surcouche d'ontologie vient justement faire l'interface à travers un client classique web qui va passer à un serveur pour avoir accès à ce fameux contenu multimédia, tout ça à travers cette couche donc de sémantique. Et pour que le système fonctionne bien, pour le transfert de contenu, on envisage aussi un client lourd, c'est-à-dire un logiciel qui passerait pas par Internet et qui serait en mesure de se connecter directement au disque dur multimédia. Alors, quelle population ciblée? C'est pareil pour tous les campus. Bien sûr, les étudiants en santé, les enseignants aussi. Alors, pas que les enseignants d'anatomie, au contraire, tous les autres. Les professions de santé au sens large, hein, en gros, bien, l'anatomie est transversale, elle concerne pratiquement toutes les disciplines, donc il faut que ce site ait un contenu adapté. Et l'organisation des connaissances dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'endroit idéal pour faire des profils d'utilisateurs. Et on peut très bien imaginer qu'un étudiant définit sa formation ou son niveau, et les réponses qu'il obtiendra sur le site correspondra à son niveau, au niveau qui correspond à sa formation. Bien sûr, s'étendre au grand public, ça, on sait bien que nos sites sont visités très largement, en particulier par les patients. Et c'est aussi l'occasion pour nous, au niveau du Collège d'anatomie, de se regrouper autour d'un projet, commun, dynamique, dont le moteur essentiel reste pour nous, bien sûr, et comme pour beaucoup, la pédagogie, mais bien sûr, comme vous l'avez vu, sur une trame assez moderne, assez ambitieuse sur le plan informatique. Donc une feuille de route. Parce que c'est un projet donc qui est tout débutant. Simplement, c'est un peu les objectifs qu'on s'est fixés. Donc là, c'est très technique sur le site, les périodes de validation et surtout les chaînes de publication. Bien sûr, pour le contenu dédié, mais il faut bien sûr rajouter à cette feuille de route, l'ajout de contenu effectif et la production de contenu effectif pour répondre à la demande et qu'il y ait un véritable contenu original sur ce site. Et ça va être le travail du Collège des anatomistes grâce au financement qu'on a obtenu à l'UMVF. Je vous remercie de votre attention.
Donc, je vais vous présenter rapidement la mise en œuvre de la PACES à Bordeaux 2. Donc un petit rappel, donc la PACES, c'est un tronc commun qui fait 50 ECTS, 4 modules spécifiques qui donc pour la maïeutique, médecine, odonto, pharma, donc pour les 4 concours santé. Ces 4 modules, les étudiants donc peuvent suivre les 4 modules en même temps et ça leur apportera de toute façon qu'ils en suivent 1, 2, 3 ou 4 que 10 ECTS. Et enfin sur Bordeaux, donc il y a les 4 concours paramédicaux, kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité et manipulateur en électroradiologie, qui sont possibles à la fin de la première année. Et donc il y a un ensemble de cours optionnels pour ce concours. Et on fait en sorte que les étudiants puissent, s'ils le désirent, suivre la totalité des cours. Donc il y a une volonté politique en 2008 de fusionner les 3 UFR au vu de la problématique de la gestion des stages, des résultats ECN assez moyens sur Bordeaux, et puis en vue aussi de mettre en place la réforme du L1 Santé, puisque s'il faut effectivement fusionner la première année de pharmacie avec la médecine, autant fusionner aussi les 3 UFR de médecine en même temps. Donc l'objectif que s'était donné le président, c'était une mise en place à la rentrée 2009, la fusion à la rentrée 2009, et donc la fusion des 3 UFR nécessitant une remise à zéro ou une remise à plat de la pédagogie. Le lancement de la L1 Santé à l'époque, c'était une occasion de faire d'une pierre deux coups. Et donc du coup, l'Université Bordeaux 2 a démarré un an plus tôt que les autres sur ce point-là. Donc il y a eu un groupe de travail qui a eu des réunions mensuelles à partir de juin 2008. Donc ce groupe de travail a réuni les doyens des UFR médicales, odonto-pharmacie, la directrice école de sage-femme, des enseignants, les responsables pédagogiques, des représentants des formations paramédicales, des représentants étudiants et des représentants d'administration, le vice-président du conseil d'administration, chef de la scolarité, de la division des gestions locaux, le responsable du DCM, du SUO et du SCD. Alors les contraintes logistiques étaient qu'à l'époque, on imaginait qu'on aurait pu avoir jusqu'à 3500 étudiants en première année. On pouvait au mieux offrir 4 amphis qui totalisaient donc au maximum 1800 places, donc ce qui nécessitait pour faire les cours de faire venir une première moitié des étudiants le matin et la deuxième moitié l'après-midi et de redonner les mêmes cours que le matin. Il a été décidé que la diffusion des supports de cours se ferait par internet sur l'entrepôt de ressources pédagogiques de l'université qui s'appelle Apprends-toile. Que compte tenu du fait qu'il n'y avait qu'un seul groupe d'étudiants qui était en vis-à-vis de l'enseignant, il n'y aurait pas de questions pendant le cours, mais que donc on mettrait en place un forum pour que les étudiants puissent poser des questions aux enseignants si c'était nécessaire. Et enfin, donc l'organisation d'enseignement dirigé dans 3 salles de 60 places, donc par groupe d'environ 60 étudiants, avec donc la capacité de faire au plus un enseignement dirigé de 2 heures par semaine pour chacun de ces groupes. Parce que les enseignants, certains se retrouvaient à faire 5 jours de 8 heures, enfin 4 fois dans la même journée, 5 jours dans la semaine, le même dé, suivant les organisations des UE. Le tutorat donc a été organisé par les associations étudiantes des 4 filières, donc en commun, en partenariat avec l'université. Alors en partenariat, ça veut dire que les associations étudiantes, enfin responsables du tutorat, étaient associées donc aux réunions du groupe de travail. Que les locaux de l'université sont réservés pour ce tutorat en fin de journée, donc 18h15 à la fin du cours jusqu'à 22h15. Qu'on met à leur disposition un lecteur de grille optique pour qu'ils puissent faire passer les QCM aux étudiants. Qu'un représentant des tuteurs donc fait partie aussi des réunions au niveau de chaque UE. Et que les tuteurs ont pour chaque UE un enseignant identifié avec qui ils peuvent correspondre s'ils ont avaient des problèmes. Et enfin, la valorisation du travail des tuteurs se fait au travers d'une validation d'un enseignement optionnel au niveau du master. Donc, le concours se fait par QCM pour les UE communes, à part l'UE7 où il y a une partie rédactionnelle. Et nécessite, compte tenu de l'effectif, l'allocation du parc des expositions à Bordeaux, ce qui implique, au-delà du coût, aussi une problématique de disponibilité du site. Par exemple, cette année, la problématique est telle que le deuxième semestre est fait en fonction de la disponibilité de, du parc des expos, où on peut faire le concours qu'en début du mois de mai. Donc il faut avoir fini le semestre fin avril. D'autres contraintes spécifiques à Bordeaux 2, c'est aussi les enseignants de Bordeaux 2 qui font le PCM1 dans les DOM-TOM, enfin dans trois universités des DOM-TOM qui sont les Antilles et Guyane, la Réunion, la Polynésie française. Donc il faut aussi, on avait aussi imaginé de récupérer les cours faits l'année N à Bordeaux et de les envoyer là-bas pour l'année N plus 1. La possibilité éventuellement d'archiver des cours si jamais il y a un gros problème avec un enseignement pour pouvoir le rediffuser celui de l'année passée. Et mettre à disposition, éventuellement, donc mettre à disposition les cours sur Internet pour que les étudiants puissent les consulter en différé. Donc ce dernier point, enfin les deux derniers points, enfin l'archivage, on n'a pas eu besoin pour l'instant, tout va bien, ça marche. Et le dernier point, ça nécessite quand même une discussion encore avec les enseignants et puis au niveau politique. Alors la rentrée, la première rentrée donc l'année dernière, qui s'appelait à la santé. On a donc un amphi émetteur, c'est ici. Donc vous, tous ceux qui sont passés à la chaire ont vu à quoi ça ressemblait quand on était du côté enseignant. On récupère donc le support de l'enseignant, on le filme, on enregistre sa voix et on envoie la vidéo et le support dans une machine, un encodeur qui va récupérer vidéo et diaporama synchronisés, les envoyer sur un serveur. Et depuis ce serveur, ça passe sur le réseau vers les amphis qui avaient été sélectionnés à l'époque. Donc trois autres amphis. Et en fait, depuis cette année, il y a eu un changement d'amphi. Donc comme on est sur Internet, c'est nettement plus facile effectivement de basculer d'un amphi à un autre. Au niveau des amphis récepteurs, donc on a un ordinateur qui se connecte sur le serveur et qui diffuse automatiquement la présentation avec l'aide d'un vidéoprojecteur et donc d'enceinte, tout simplement. Donc voilà l'amphi 4 où on est, l'amphi source, on a l'enseignant ainsi ici. Donc pour ceux d'entre vous qui n'auront pas l'occasion de venir à la chaire, voilà à quoi ça ressemble de ce côté-ci. Donc on a un écran tactile pour l'enseignant qui peut éventuellement donc écrire dessus s'il veut. Ou sinon, il diffuse de manière classique son PowerPoint. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a un petit horloge qui permet à l'enseignant de démarrer à l'heure pile, puisque après l'après-midi, c'est rediffusé tel quel, donc il faut que ce soit enregistré au bon moment. Il ne faut pas qu'il démarre à l'avance, sinon il risque d'y avoir un problème. Les étudiants, s'ils rentrent une minute en retard et que le cours a démarré trop tôt, ils sont peut-être pas tous contents. Donc il y a un problème de chronométrage, effectivement, pour le démarrage. La cabine là-haut où on fait les enregistrements, donc il y a pas mal de matériel, d'autant plus qu'en fait on peut depuis la cabine piloter les autres amphis pour régler le niveau sonore, vérifier que tout marche bien, et aussi vérifier qu'il n'y a pas un problème, puisque le matin, donc, comme le cours est en direct, s'il y a un problème dans un des autres amphis, on est obligé d'arrêter le cours, puisque les étudiants qui sont dans ces autres amphis, ils n'ont pas de place, en tout cas en début d'année, ils peuvent pas aller dans un autre amphi, ni le matin ni l'après-midi. Si jamais l'amphi doit être fermé, on arrête le cours. Donc on se contente pas de surveiller que tout se passe bien dans l'amphi où il y a l'enseignant, on vérifie aussi que tout se passe bien dans les autres amphis. Donc la diffusion dans les autres amphis, donc on a un vidéoprojecteur assez puissant qui permet donc d'avoir quand même de l'éclairage pour que les étudiants puissent prendre des notes. Et en fait, on peut noter, si on regarde bien, que les étudiants voient mieux l'enseignant dans les amphis distants que ici le matin. En tout cas, pour ceux qui sont au fond de l'amphi, il vaut mieux être dans les autres amphis que là où il y a l'enseignant. Donc le serveur, ce qui sert pour la diffusion, est dans une des cabines. On a un amphi de 500 places qui en fait correspond en gros à l'équivalent de cet amphi doublé en largeur. Donc pour que les étudiants aient une visibilité équivalente, on a installé deux vidéoprojecteurs et deux écrans pour qu'ils ne soient pas lésés. Et le plus grand amphi, donc l'amphi de 700 places. Avec la cabine. Alors au-delà de cet accompagnement technique, on a apporté aussi des outils juridiques pour en fait faire signer un contrat de diffusion aux enseignants pour autoriser donc l'utilisation de leur image. Le dépôt des ressources pédagogiques, donc une fiche technique de déclaration des documents. pour pouvoir les mettre en ligne. Donc, à quel lieu, le titre du cours, l'enseignant qui a fait le cours. Donc, le dépôt se fait comme ça. Et, la version de l'étudiant. Et par contre, l'étudiant, donc, quand il est sur le cours, il peut consulter le forum qui ressemble à ça. Donc forum modéré par les enseignants. Toutes les questions ne sont pas directement visibles, donc ce qui évite des fois des petits problèmes. Et puis surtout qui évite que les questions posées en double soient affichées plusieurs fois. Voilà. Merci.